VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo, une quinzaine de civils ont été tués et décapités dans un nouveau massacre près de la ville de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. C'est ce qu'ont rapporté aujourd'hui des sources de la société civile. La nouvelle tuerie attribuée au groupe armé des ADF, les forces démocratiques alliées, a eu lieu jeudi au nord de Beni, dans la zone de Mbao. Aucune source militaire n'a confirmé l'information officiellement à ce stade. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Cameroun, 17 jeunes âgés de 11 à 20 ans ont été enlevés hier soir par Boko Haram dans l'extrême nord du pays, région en proie depuis plus de 5 ans aux attaques du groupe djihadiste nigérian. Les précisions avec Irénée Herman Ongo.
Boko Haram a attaqué la localité de Mbrèche, située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria. Ils ont enlevé 21 personnes, mais 4 ont réussi à s'enfuir. 17 restent en captivité, a indiqué une autorité administrative locale. Les civils kidnappés sont des garçons et des filles âgés entre 11 et 20 ans. L'armée a lancé une opération de ratissage qui se poursuit. Parmi les 4 personnes qui sont revenues, une a dit avoir reconnu chez les ravisseurs des habitants de Mbrèche qui ont été enrôlés par Boko Haram. Selon l'armée, des recherches ont été engagées pour retrouver les 17 otages. Boko Haram, dont l'insurrection a débuté en 2009 au Nigeria, a étendu ses attaques au carrefour du Niger, du Tchad et du Cameroun. Bien qu'affaibli, il reste actif dans l'extrême nord du Cameroun, où vivent 4 millions de personnes. Depuis 2014, les autorités camerounaises ont compté près de 13 000 attaques sur leur territoire qui ont fait plusieurs milliers de morts. L'insurrection a forcé plus de 250 000 personnes à fuir leur domicile et provoqué un afflux de 60 000 réfugiés nigérians.
Toujours concernant le combat contre les djihadistes dans le Sahel, les présidents des pays du G5 Sahel seront le 16 décembre à Pau, dans le sud-ouest de la France, pour discuter avec leur homologue français Emmanuel Macron de la lutte anti-djihadiste dans la région. Paris veut que les leaders des pays en question, à savoir Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel. Pour analyse, Eric Manirakis a joint à Dakar l'analyste politique du groupe de réflexion Wati, le docteur Gilles Olakunle Yabi.
Je crois surtout que cela nous éloigne un peu de la réalité du terrain et de la gravité de la situation et qu'on est en train aujourd'hui de multiplier les déclarations sur les relations entre la France et les pays du Sahel en oubliant qu'il s'agit d'une situation qui est complexe et qu'aujourd'hui le plus important pour les pays de la région c'est vraiment d'éviter l'effondrement et la présence dans le Sahel s'inscrit aussi dans cette logique.
Une présence importante qui a sauvé cette région.
C'est une présence importante qui, en 2013, a permis de stopper la dégradation, la situation au Mali, ou en tout cas la peut-être une partie plus importante du territoire par les groupes armés djihadistes. C'est beaucoup plus complexe que cela et on sait très bien qu'il y a une longue histoire dans ces relations entre la France et les pays africains, en particulier les ex-colonies françaises.
Comment contenir ce sentiment anti-français qui est contre-productif, en effet?
Oui, je pense que le sentiment anti-français qui monte beaucoup dans les pays du Sahel et au-delà dans beaucoup de pays africains, il est contre-productif. Dans le sens où, à nouveau, il détourne notre énergie, notre créativité, notamment au niveau africain, de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la consolidation des États, c'est la consolidation des institutions civiles et militaires dans les pays de la région. Et c'est précisément la faiblesse de ces institutions qui permet, disons, une situation d'extrême dépendance sur le plan sécuritaire à l'égard d'acteurs internationaux, au premier rang desquels la France. Et je crois à nouveau que ce sentiment anti-français, il a des origines plus lointaines que la situation actuelle dans le Sahel, qui est beaucoup une situation de frustration de la part de populations qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de moyens militaires engagés et qu'en même temps, il y a peu de résultats, puisque la situation sécuritaire, elle se dégrade, elle s'est dégradée au fil des ans depuis 2013. en territoire malien et surtout d'extension vers les pays voisins, en particulier le Burkina Faso.
Et que devrait être la réponse de ces chefs d'État?
À nouveau, c'est difficile à dire. Je pense qu'ils n'ont probablement pas vraiment le choix que de répondre à l'invitation française. La réalité aujourd'hui est une réalité d'extrême dépendance. Et il me semble important aussi d'expliquer aux populations des pays concernés en Afrique, c'est que on a créé les conditions de cette extrême faiblesse et de cette extrême dépendance. Et aujourd'hui, il n'y a pas une infinité de solutions qui soient à portée de main. La rupture, une sorte de rupture brutale avec la France sur le plan de la coopération militaire ou de la présence militaire française ne me semble pas envisageable. Et je crois que ce qui est important, c'est pour les États de la région d'identifier leurs intérêts vitaux, de savoir qu'il y a un espace d'intérêt partagé entre eux et la France, mais qu'il y a aussi sans doute une divergence dans certains intérêts, dans certains rythmes et dans certaines approches. Donc ce qui est important, c'est que les États de la région puissent naviguer un peu à l'intérieur de situations où le rapport de force à nouveau est extrêmement défavorable.
Le docteur Gilles Olakunle-Yabi, analyste politique du groupe de réflexion Roati, joint à Dakar au Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, en Guinée, la justice a reporté hier son jugement dans le procès de 10 responsables d'opposition à l'origine des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le temps que la Cour constitutionnelle examine la validité de ces poursuites, John Lyndon.
Mangandou Basso, président de la Cour d'appel de Conakry, a demandé à la plus haute juridiction du pays de se prononcer sur ces poursuites. La haute cour devra donc dire si les articles du code pénal sur lesquels elle se fonde ne contredisent pas la Constitution qui garantit la liberté de manifester. L'annonce du report a été saluée par des cris de joie. Les prévenus, remis en liberté provisoire la semaine dernière après un mois de détention, ne vont pas pour l'instant retourner en prison, a expliqué Amidou Barry, l'un des avocats à la défense. Ils avaient été reconnus coupables fin octobre d'avoir causé des troubles en appelant à manifester à partir du 14 octobre contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Condamnés à des peines allant de 6 mois à 2 ans ferme, ils avaient fait appel. Ces protestations ont été parfois violemment réprimées, faisant une vingtaine de morts, dont un gendarme.
Politique au Togo, l'élection présidentielle togolaise à laquelle le président Fonny Asimbe devrait être candidat pour un quatrième mandat aura lieu le 22 février 2020. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans un décret pris en Conseil des ministres et publié jeudi soir. Si aucun des candidats n'obtient une majorité de plus de 51% à ce premier tour de scrutin, un second tour sera organisé à une date ultérieure. La diaspora togolaise votera pour la première fois à cette élection suite à une loi votée le 5 novembre par l'Assemblée nationale. La campagne électorale sera ouverte le jeudi 6 février et prendra fin le jeudi 20 février. Actualité aux États-Unis maintenant, la chef de l'opposition démocrate au Congrès américain, Nancy Pelosi, a demandé la rédaction des articles de mise en accusation du président Donald Trump. Madame Pelosi accuse le chef de l'exécutif d'abus de pouvoir. Les détails avec Eric Maniracisa.
Nous gagnerons la bataille, a réagi le locataire de la Maison-Blanche en se disant pressé du procès au Sénat où la majorité républicaine devrait en toute probabilité la quitter. Peu de temps avant, dans une allocution formelle, Mme Pelosi a demandé à la commission judiciaire de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, d'entamer la rédaction des articles de mise en accusation du président, impeachment en anglais.
The president leaves us no choice but to act.
Le président ne nous laisse pas d'autre choix parce qu'il a de nouveau essayé de corrompre nos élections pour son propre bénéfice, a-t-elle justifié sur un ton solennel. Il a commis un abus de pouvoir, affaibli notre sécurité nationale et mis en danger l'intégrité de nos élections, a-t-elle encore asséné. Les parlementaires ont entamé mercredi le débat juridique pour savoir si les faits reprochés au président correspondent à l'un des motifs de destitution prévus par la Constitution, trahison, corruption ou autre crime et délit majeur.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. No time.